Radio Okapi. Grande interview.
Thomas Luakalo Senjola, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, est notre invité. Avec lui, nous abordons la question des frais académiques, les échauffourées qui ont eu lieu à l'université de Kinshasa, la problématique des points sexuellement transmissibles et autres questions liées à l'enseignement supérieur et universitaire. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Monsieur le ministre Thomas Luaka, bonjour.
Bonjour.
Le lundi 6 et le mardi 7 janvier dernier, à l'université de Kinshasa, des échauffourées ont opposé les étudiants aux policiers.
Bilan, un policier tué et des dégâts matériels considérables. Quel est d'abord le sentiment qui vous anime?
Je suis très attristé parce que vous savez, aujourd'hui, l'enseignement supérieur souffre d'un problème de manque d'infrastructures. La population étudiantine a augmenté, mais les infrastructures n'ont pas suivi dans le même sens. Donc aujourd'hui, les peu qui existent que nous devions justement entretenir et commencer à le voir saccager comme ça, ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis, entre autres, je déplore les victimes qu'on a connues pendant ces deux jours à l'université de Kinshasa.
Revenons au nœud du problème. Certains de vos détracteurs vous accusent, vous, ministre de l'enseignement supérieur, d'avoir augmenté les frais académiques.
J'ai dit ici, sur Radio Capi, c'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est de l'intoxication. Monsieur Alain Rung, on a la chance d'être en face. Je vous ai montré deux documents. Chaque année, le ministre de l'enseignement supérieur prend une instruction académique où il donne des directives ou des instructions dans les secteurs pour l'année académique. Et ces instructions portent des numéros. Cette année, nous avons pris le 15 octobre une instruction qui s'appelle Instruction académique 021 où, entre autres, nous avons fixé le frais. Mais pour savoir si ça a augmenté ou ça a baissé, il faut se référer à ce qui existait avant. Je vous ai montré l'instruction 020 de mon prédécesseur, le ministre Steve Bikai, qui est encore vivant et puis il est membre du gouvernement. Il a signé une instruction académique en date du 4 octobre 2018, où il fixe les frais pour l'année académique 2018-2019. Juste vous donner deux exemples. Les frais d'études fixés dans l'instruction académique 020 de mon prédécesseur sont à 160 000 francs congolais. Donc il y a deux ans, lorsque vous regardez l'instruction académique 021, dans notre instruction académique, les frais d'études sont fixés à 164 000 francs congolais. Les 4 000 francs qui s'ajoutent, c'est la dépréciation monétaire. Donc 160 à 164. Mon prédécesseur a fixé le Minerval à 16 000 francs congolais. Dans notre instruction, nous avons fixé le Minerval à 16 470 francs congolais. Donc 400 francs de plus. Voilà ce qui se passe dans les secteurs. Les instructions sont disponibles. Je peux mettre à votre disposition des copies des documents. Je peux même aller plus loin. L'instruction académique 019, la 018 du professeur Théophile Mbemba, qui était d'ailleurs fixée en dollars, ça n'a pratiquement pas bougé. Deuxième élément, pour qu'on se comprenne bien, l'instruction académique laisse une liberté à chaque institution du supérieur, du public, de définir en interne leur propre budget pour les besoins de l'année. Les niveaux de vie n'étant pas les mêmes partout, on leur demande de négocier entre partenaires de l'institution. Il y a 5 partenaires dans chaque institution. Vous avez les comités de gestion, l'association des professeurs, l'association des scientifiques, le personnel administratif et technique et ouvrier de l'institution et la coordination étudiantine. Voilà les 5 groupes qui se réunissent pour définir en toute indépendance leurs propres besoins et les taux de frais connexes payables cette année-là. C'est ce qui s'est passé cette année. L'université de Lubumbashi s'est réunie dans le cadre du conseil de partenaires, on appelle ça COPA. Ils se sont réunis, ils ont en toute liberté, en toute indépendance, en toute responsabilité, défini les montants qui est autour de 490 000 à peu près, 95 000. L'université pédagogique nationale, UPN, ils se sont réunis, j'ai des PV avec moi, ils ont défini eux-mêmes l'université de Kisangani. Nous gérons ici à notre niveau, au niveau du ministère, 448 institutions de l'enseignement supérieur universitaire. 448 du public. Si on met les privés c'est plus de 500. en ces conseils publics, dont plus de 450 institutions se sont réunies dans les conseils des partenaires, ils ont défini en toute indépendance. Et tout se passe bien.
D'où vient le problème, monsieur le ministre, à l'UNIKIN, ces frais d'études dont vous parlez, si je ne me trompe pas, c'est autour de 490 000 francs congolais. Quel est le rôle que vous, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, vous jouez? Comment vous contrôlez ces frais d'études pour que ce ne soit pas exagéré par les universités?
La première des choses, je dois veiller à ce que tout le monde ait participé. Les partenaires de l'UNIKIN, ils ont défini à 490 000 francs congolais. Je vous ai montré que par rapport aux frais que moi j'ai défini dans l'instruction académique, ce que je demande, c'est moins de 190 000 francs congolais. Et même, ils ont ajouté pour arriver à 490 000 francs congolais. En fait, je dois veiller, est-ce que tous les partenaires ont donné leur accord? Est-ce que c'était une décision consensuelle? J'ai reçu les réponses parce que j'ai les PV. Tout le monde a signé. C'est un accord interne qu'on respecte. Je dois veiller à ce que par rapport aux années précédentes, est-ce qu'il y a une inflation? Ils sont allés trop loin. Je vous ai dit, déjà, pour ne prendre que l'exemple, en 2015-2016, les étudiants de l'UNIKIN payaient autour de 275 dollars. Là maintenant, avec les 490 000, autour de 280-85 dollars avec le taux actuel, même 280. Donc, il n'y a pas eu une inflation par rapport à ce que les gens payaient déjà il y a depuis quelques années. On est autour de moins de 300 dollars par étudiant pour toute une année. Donc, je dois veiller à ce qu'il n'y ait pas eu une aggravation. Ce n'était pas le cas. Mais d'où vient le problème en particulier à l'UNIKIN? Premier problème, c'est que l'année passée, mon prédécesseur qui a défini à ce montant-là 160 000, un jour, il est allé à l'UNIKIN et il a décidé, parce qu'il y avait une grogne, il a dit aux étudiants que vous allez payer cet argent-là, 160 000, à l'époque c'était l'équivalent de 100 dollars, vous allez payer ça au taux de 92 au lieu du taux de 16, donc 92. Ce qui fait que les étudiants, au lieu de payer les 160 000, ont payé 92 000. En fait, le ministre leur a fait une remise. Puisque ailleurs, ils ont appris cela, qu'il y a une remise, tout le monde a demandé la même chose. Au lieu de payer 160, ils ont payé 92. Mais les gestionnaires, les partenaires qui ont signé leurs propres accords, ils ont dit, mais là, vous nous créez un problème. Qui va payer la différence entre les 92 000 et les 160 000? À peu près les 70 000 là. Le gouvernement de la République s'est engagé à combler. C'est la problématique qu'on appelle le manque à gagner. Donc, ce manque à gagner, le gouvernement s'est engagé à le payer. Et le gouvernement a commencé à payer. En cours de route, le gouvernement s'est essoufflé. Aujourd'hui, le gouvernement congolais doit des millions, je ne parle pas des centaines, des millions de dollars, justement pour combler ce manque à gagner. Le gouvernement est essoufflé. Donc, aujourd'hui, nous avons dessiné notre instruction, on a fixé les taux, je vous ai dit par rapport à l'instruction, je n'ai pas augmenté. La coordination étudiantine a expliqué à leurs camarades, si on revient, on demande cette remise qui nous avait été accordée l'année dernière, le gouvernement n'étant pas en moyen de payer, à quoi sert cet argent que les gens payent? C'est à deux choses, on donne une prime aux enseignants, au personnel, et puis ça permet de faire fonctionner l'institution. Il dit, mais puisque si on rentre dans cette logique de demander ces rabais, le gouvernement n'étant pas en mesure de combler, ce qui va se passer, les professeurs vont aller en grève. Ça nous sert à quoi de payer 92 000 si on n'a pas d'enseignement? La grande majorité des étudiants de l'UNIKIN, d'ailleurs même de partout, ils ont compris cette logique-là. Mais il y a un petit groupe, un petit noyau. L'UNIKIN, c'est plus de 30 000 étudiants. Mais lorsque vous regardez les gens qui ont manifesté, c'est moins de 1 000 personnes. Et dans les 1 000 personnes, plus de la moitié n'étaient pas des étudiants.
Et là, vous êtes dans la théorie du complot, de la manipulation.
Ce n'est pas une théorie parce que c'est des faits. Le lundi 6 janvier, la police a arrêté 12 manifestants. Sur les 12 manifestants, il n'y avait que 5 étudiants. Ce n'est pas une théorie, c'est prouvé. 5 sur 12, donc les 7 autres n'étaient pas des étudiants. C'est des gens qui viennent des quartiers périphériques, les désœuvrés des quartiers périphériques qui ont besoin. Et ils pensent que lorsqu'il y a du désordre, on peut piller et puis rentrer avec quelque chose à la maison. C'était ça. Donc voilà comment ça a commencé. Parce qu'un groupe n'a pas voulu s'aligner sur la décision de la coordination étudiantine. Donc voilà l'origine du problème. Donc pour être bref, le ministre que je suis n'a jamais augmenté le frais académique. C'est faux et archi faux. Les documents sont là. Mon instruction est là. Vous comparez mon instruction, la 021 au 020 de mon prédécesseur, au 018 du professeur Théophile Memba, les frais n'ont pratiquement pas bougé.
Grande interview reçoit Thomas Louaka, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire.
Toutes les activités à l'université de Kinshasa, vous les avez suspendues et le conseil de ministres a pratiquement avalisé toutes vos décisions. Cette suspension prendra combien de temps? Est-ce que cette année académique va se terminer normalement? Il y a des étudiants qui n'ont pas de famille ici, qui en appellent à votre clémence.
Oui, mais déjà comment on en arrive là? Pourquoi on en arrive à la suspension? Je vous ai dit, les manifestations le lundi, on a pris des dispositions. La police s'est déployée parce que la semaine d'avant, quelques jours avant, on a été invité avec le Comité national de sécurité. Ils ont pris des dispositions et on connaît un peu maintenant ce qui se passe à l'UNIKIN. Quand on annonce des manifestations, des marches à l'UNIKIN, en réalité, les étudiants qui s'engagent dans ces mouvements de protestation, souvent ils ne sont pas nombreux. Il y a un apport des jeunes des quartiers périphériques qui viennent comme main d'œuvre pour appuyer ces manifestations. Cette fois-ci, la police a pris des dispositions de telle manière que cet apport ne peut pas se faire. La police a été bien déployée dans le parage pour protéger les sites de ces gens qui venaient pour vandaliser. Mais quand même, comme c'est un grand site, il y a quand même quelques-uns qui se sont infiltrés. La preuve, on en a arrêté quelques-uns. Et ils ont commencé à casser. Je ne vois pas un étudiant aller chercher à incendier les bureaux administratifs, là où il y a tous ces archives, toute sa documentation. Ils ont cassé, la salle de promotion Monseigneur Gilon a été vandalisée. Les bureaux des professeurs, vous savez le respect qu'un étudiant vis-à-vis du corps enseignant, on est allé vandaliser les bureaux des professeurs. Ils sont allés piller la banque, la BCBC. Donc, la police a contenu, malgré ces dégâts, mais il y a quand même des dégâts humains, puisqu'on a eu 7 policiers blessés, dont 7 graves et 3 légers. Et on pensait que bon, ça allait s'éteindre là. Le mardi, ça reprend. Lorsque ça reprend le mardi, ça devient plus que dangereux lorsque un policier est tué. Vous avez vu les images. Sauvagement assassiné. Vous savez que tous les policiers maintenant ont des téléphones. Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont vu les images de leurs camarades. La question en toute responsabilité, laisser les policiers en armes en face des manifestants avec certains policiers qui disent « on vient de tuer notre ami », il y avait risque de dérapage. Alors, pour éviter cela, en concertation avec le Premier ministre, concertation avec les Conseils nationaux de sécurité, on a décidé de suspendre les activités, justement pour permettre d'évacuer les sites. Voilà pourquoi on a suspendu. On n'a pas fermé l'université de Kinshasa. C'est une suspension momentanée pour qu'on puisse avoir de la calmer. Pour faire des études, il faut être dans un climat de sérénité. C'est une suspension.
Qui peut prendre une année, deux ans, six mois.
Non, on parle de questions de semaines, c'est quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines. Le temps juste que la sérénité nécessaire puisse revenir. Ce n'est pas une fermeture, donc je peux rassurer tout le monde. C'est juste une petite suspension pour besoin de tranquillité. Maintenant, les services de police se sont rendus compte que parmi les manifestants, les non-étudiants, certains venaient de Homme. C'était le Kijé. On s'est dit, mais il y a un problème. Et visiblement, manifestement, dans leur langage, dans leur comportement, ces gens-là n'étaient pas des étudiants. Les gens ont vu les images dans les réseaux sociaux. Il y en a un qui se vante, là, j'ai mis le feu, en Lingala, j'ai mis le feu. Celui-là, je peux mettre ma main à couper, il n'a jamais été étudiant à l'UNIKIN. Un étudiant à l'UNIKIN ne s'exprime pas comme ça. C'est quand même des gens qui ont un certain niveau d'instruction. Donc, on a remarqué que ces gens-là venaient des Hommes. Et les services nous ont informés que dans les Hommes, malheureusement, depuis des années, il n'y avait pas que des étudiants. Il y avait d'autres personnes qui habitaient là sans titre ni qualité.
Et là, monsieur le ministre, c'est une grande défaillance de la part des autorités académiques.
Exactement, mais c'est un laisser-aller qui a commencé depuis des décennies. Donc, c'est comme ça qu'on a pris la deuxième décision. Il faut faire évacuer. On a fait évacuer justement pour permettre qu'on puisse identifier les vrais étudiants. Vous savez qu'il y a des étudiants qui ont les droits de loger là-bas, mais ils ne peuvent pas les loger parce que justement, c'est occupé par des gens qui n'ont pas la qualité d'étudiants. On veut réserver les Hommes aux étudiants régulièrement inscrits à l'université de Kinshasa. C'est pour ça que ça a été construit. Ça n'a pas été construit pour loger des familles, des amis et connaissances. Maintenant, les gens qui n'ont pas de famille à Kinshasa, je déplore sincèrement cette situation qui leur arrive, mais il y avait des impératifs sécuritaires. Vous le savez, on a découvert des armes dans les homes. On a découvert des quantités énormes de chanvre. On a même découvert de la drogue. Donc on avait raison de lancer cette opération. Et vous savez, vous avez même vu les images. Certains soi-disant étudiants, en tout cas certains occupants, en partant, ils ont tenté à plusieurs fois de mettre le feu. Ce n'est pas un comportement d'étudiant, ça. Donc tous ces bandits-là ont été évacués. On leur a donné 48 heures, ils sont partis. Maintenant, les étudiants réguliers qui viennent de l'intérieur, le Premier ministre a instruit mon collègue, le ministre des Actions humanitaires, de réfléchir rapidement pour trouver des pistes de solutions à ces étudiants et étudiantes. Donc voilà la nouvelle que je peux annoncer. Mais nous nous sommes rendus compte que les sites sont tellement délabrés que nous ne pouvons pas, par décence, par responsabilité, permettre à ce que nos enfants retournent dans ces conditions-là, vivre là-bas. C'est comme ça que le chef de l'État a pris la décision, et sous le conseil des ministres, il faut commencer les travaux de réhabilitation de ces hommes. La reprise des cours se fera rapidement, mais les relogements, ça pourra nous prendre un petit temps, le temps de réhabiliter ces installations.
Monsieur le ministre, au mois de décembre, c'était à l'UPN que l'on a vécu ce genre de manifestations. Janvier, c'est l'UNIKIN, à Kisangani, il y avait les mêmes remous. Vous, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, par rapport à l'avenir, quel est votre degré d'implication pour que l'on ne retombe plus dans ce genre de situation?
Je crois qu'il y a trois choses. La première des choses, il faut d'abord séparer le bon gré de l'ivraie. Dans notre système d'enseignement supérieur, il y a des gens qui n'ont pas la vocation à faire des études supérieures. Mais pour des raisons, je ne sais pas, peut-être de facilité d'accès. Vous savez que la loi dit, pour aller à l'université, il faut avoir 60% au diplôme d'État. Mais la loi laisse une ouverture. Donc déjà là, dans l'esprit du législateur, ce n'est pas tout diplômé qui doit aller à l'université. C'est seulement ceux qui ont excellé, donc ceux qui ont 60%. Mais la loi a laissé une petite ouverture en disant pour les autres, si vous n'avez pas eu 60%, vous pouvez quand même passer un test pour voir si vous avez les aptitudes nécessaires. Et c'est là que les problèmes commencent. Puisque les institutions du supérieur ne recevant plus de subventions de l'État considèrent maintenant que ce test qui est à 10 dollars est un moyen de revenu. Donc tout le monde qui veut venir passer les tests est le bienvenu. Deuxièmement, souvent il y a une grande complaisance lors de ces tests parce que certaines institutions considèrent que les étudiants sont devenus des clients. Plus vous en avez beaucoup, plus ça vous fait des revenus. Alors que ce n'était pas la logique, la philosophie du législateur. Le législateur congolais voulait réserver l'enseignement supérieur aux gens quand même qui ont certaines qualités. Donc ça, c'est le premier problème, c'est le problème du tri à l'accès. Être un peu plus rigoureux, je vais demander aux institutions, au comité de gestion, d'être plus rigoureux dans les examens d'accès. Celui qui a ses 60%, c'est automatique. Mais les autres, dans les tests, il faut qu'on soit rigoureux. Celui qui n'a pas réussi ne peut pas être admis. Celui qui a réussi son test, il passe, il va à l'université. Premier problème. Deuxième problème, il y a quand même la population étudiantine qui a beaucoup évolué dans notre pays. Les infrastructures académiques n'ont pas suivi. Là aussi, on doit construire des auditoires, des résidences étudiantines, ainsi de suite. Améliorer les cadres. Troisième chose, je pense aussi qu'il faut améliorer les conditions de vie du corps professoral, des enseignants, les chargés des travaux, les assistants. On doit faire un effort. Mais le problème, c'est ce que j'ai expliqué aussi à beaucoup de gens pour qu'ils puissent comprendre. Certains considèrent, non, vous avez été trop ferme, et c'est de la méchanceté. Non, ce n'est pas de la méchanceté. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il a lancé une grande réforme, la gratuité de l'enseignement primaire. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que l'État doit diriger beaucoup de moyens dans ces secteurs-là. Parce que comme les parents sont soulagés, ils ne doivent plus contribuer, c'est l'État qui doit prendre ça en charge. Ça demande beaucoup de moyens. Si nous voulons que l'enseignement, la gratuité soit une réalité, une réussite, il ne faut pas justement distraire l'État, les trésors publics, en créant de nouvelles dépenses qui n'étaient même pas budgétisées au niveau du supérieur. Donc tout ça est lié.
Radio Okapi. Grande interview.
grande interview reçoit Thomas Louaka, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire.
Aujourd'hui, on a aussi un sérieux problème dans l'enseignement supérieur avec ces professeurs qui sont devenus cumulards. Il est à l'UPEN, à l'UNIKIN, à l'Université catholique, à l'Université protestante, à l'ULK et j'en passe, au point que le rendement a beaucoup baissé au niveau des professeurs. On parle également des corruptions, des points sexuellement transmissibles. Vous, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, quels sont les efforts que vous faites pour lutter contre ces fléaux?
Oui, le premier point, c'est une réalité, hein, la pénurie des enseignants, des professeurs, c'est une réalité. La seule façon de résoudre ces problèmes de pénurie, c'est deux choses, améliorer les conditions de vie. Il faut que la profession des professeurs devienne attractive. Il faut que les jeunes qui voient les professeurs les envient. Et c'est ça qui va leur donner l'envie, justement, de devenir aussi professeur. Mais si vous voyez un professeur après 25 ans d'études, 6 ans primaire, 6 ans secondaire, les 5 ans jusqu'à licence et puis le doctorat, c'est autour des 25 ans de sa vie que ce monsieur a consacré pour faire des études. Mais vous, ce que vous le voyez sur le plan la considération sociale, l'aisance matérielle, qui ne donne pas envie aux jeunes, vous n'allez pas avoir beaucoup de professeurs. Donc il faut déjà que ceux qui sont des professeurs puissent être enviés par les jeunes. Deuxièmement, il y a aussi beaucoup de jeunes qui veulent devenir des professeurs, mais n'ont pas les moyens de finir leur thèse, parce que c'est la condition pour devenir professeur. Ces jeunes-là, il faut les appuyer par des bourses. Il faut leur donner des bourses, soit ici localement, soit à l'étranger, qu'ils aillent se former. C'est eux qui vont venir pour la relève. Nous sommes en train de pencher là-dessus. Et puis, pour les autres problèmes, les antivalets, corruption,
les points sexuellement transmissibles.
Je ne suis pas un magicien. Justement, on va dire, c'est ce que j'ai dit, on va convoquer dans les prochains jours, prochaines semaines peut-être, si les moyens sont disponibles, les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Il y a des grands professeurs dans ce pays, il y a des grands penseurs, il y a des gens plus intelligents que moi, mieux formés que moi, qui ont peut-être de meilleures idées. C'est pour ça que j'ai dit, mettons-nous autour d'une table. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi aujourd'hui, aucune université congolaise ne se trouve dans le palmarès de 200 meilleures universités africaines? Il y a un problème. Alors qu'on avait quand même l'une des meilleures universités en Afrique, l'Ovanium. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà, justement, je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle de ça. Je pense ensemble, nous allons trouver des pistes et des solutions.
Nous tendons vers la fin de notre entretien. Il y a également le problème des universités privées qui sont devenues véritables marchés, fonds de commerce. Ils fixent les prix comme ils veulent et beaucoup de parents, d'étudiants disent que le ministre de l'enseignement supérieur que vous êtes les a abandonnés à leur triste sort.
Mais justement, je vous ai dit, les états généraux, ce n'est pas seulement pour l'enseignement public, c'est aussi l'enseignement privé. Nous allons réfléchir ensemble où est-ce que nous allons. Je suis quand même préoccupé. Les nombres de médecins que nous formons par an, ont-ils réellement vraiment la formation requise? Parce que si on est complaisant dans ces secteurs-là, ben c'est eux qui vont nous soigner demain. Nous sommes en train de jouer avec nos propres vies. Il faut suivre tout ça. Dans l'instruction 021, j'ai dit que les facultés de médecine publique et privée qui n'ont pas de clinique universitaire seront fermées. Nous sommes en train de suivre ça. Par exemple, vous savez que chez nous, c'est une anomalie. Les gens qui apprennent la médecine dans notre pays ne font pas des exercices sur les cadavres, comme ça se passe ailleurs. Ailleurs, vous faites une formation en médecine, il y a de la pratique, vous faites ça sur des cadavres. Mais chez nous, ils ne le font pas. Pourquoi? Est-ce que c'est lié à nos croyances bantoues et tout? Non, quelqu'un m'a dit, non, il y a une infraction dans notre code pénal, mutilation des cadavres. Donc, on me demande maintenant de prendre un arrêté qui puisse autoriser ces jeunes médecins, ces étudiants en médecine, de pouvoir faire des exercices sur des cadavres humains, bien sûr, pour pouvoir s'améliorer, au lieu de venir faire leur premier pratique sur un vivant. Donc voilà, il y a des choses que nous devons faire, il y a beaucoup de points faibles dans notre système, mais je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas désespéré parce que quand je vois certains étudiants congolais qui finissent chez nous et qui vont aller briller à l'extérieur parce qu'on est en train quand même de suivre, qui défendent des thèses à l'étranger, c'est très encourageant. Ça veut dire que non, la qualité est encore là. Vous savez, pendant cette crise, depuis que je suis dans ces fonctions, j'ai quand même à échanger avec beaucoup d'étudiants. Et à chaque fois, je suis agréablement surpris. Étudiant congolais, en deuxième gradué à l'université de Kinshasa, il a un raisonnement correct, il s'exprime correctement, mais ça fait plaisir. Alors que de temps en temps, je dois vous dire la vérité, je tombe sur certains, où on se pose la question, comment il a franchi les barrières? Le monsieur a du mal à exprimer sa propre pensée. Mais il est arrivé à l'université. Mais c'est une minorité. La grande majorité des étudiants congolais, vous les mettez dans de bonnes conditions, avec un bon encadrement des professeurs motivés, professionnels, qui sont là pour transmettre le savoir. Je pense que ça ne demandera pas beaucoup de temps pour rentrer dans les top 10 des universités d'Afrique.
Deux petites questions pour terminer, Monsieur le Ministre. Très brièvement, il y a certains spécialistes qui pensent qu'il faudrait à tout prix orienter l'enseignement au Congo vers des résolutions pratiques des problèmes au quotidien, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Oui, vous posez les problèmes du programme. La question se pose, est-ce que notre programme de formation est adapté à nos réalités? Justement, c'est un sujet qui va être débattu dans les États généraux. Parce que l'université a trois missions. La première mission de l'université, c'est l'enseignement, transmettre le savoir. On met une salle, les gens qui savent, par rapport aux gens qui veulent apprendre, ils transmettent le savoir. Deuxième mission, c'est la recherche. Pousser les limites de nos connaissances, dans tous les domaines. Il faut s'y appuyer. La troisième mission, c'est le service à la communauté. Parce que l'université ne peut pas vivre en autarcie. L'exemple le plus pertinent que je peux vous donner de ces trois missions, c'est l'université justement de Kinshasa. La faculté de médecine, les étudiants apprennent la médecine. Ça, c'est la mission enseignement. Ils font des recherches pour préparer leur thèse et tout. C'est la deuxième mission. Et la troisième mission, service à la communauté. C'est les cliniques universitaires, où la population vient justement se rendre compte que les jeunes qu'on est en train de former dans les salles sont utiles à la société parce qu'ils sont en train de les soigner. Donc voilà les trois piliers de notre enseignement supérieur que nous devons appuyer. En ce qui concerne les programmes, vous avez tout à fait raison, nous devons réfléchir en profondeur. Notre programme dans tous les domaines, est-ce qu'il est adapté à nos réalités actuelles?
Pour terminer, Monsieur le Ministre, un mot à tous ces étudiants de l'Université de Kinshasa qui vous suivent en ce moment, à tous les étudiants de la RDC, à tous les professeurs, les corps académiques qui vous suivent en ce moment.
La première des choses, je dois leur dire que je suis un ancien étudiant de l'ISTA. J'ai étudié à l'ISTA, donc je connais la réalité de l'enseignement supérieur. C'est vrai que je suis allé poursuivre mes études à l'étranger, mais j'ai étudié à l'ISTA. À l'époque, il y avait l'ISTA Gombe et l'ISTA Ndolo. J'ai étudié sur les deux sites. Deuxième chose, je suis de bonne foi. Tout ce que nous faisons, on n'est pas des hommes parfaits, on a nos limites. Mais ce qu'ils doivent savoir, nous voulons justement redresser. Et pour redresser le secteur, pour qu'on espère que 2, 3, 4 universités congolaises reviennent dans les top 5, 10, 20 des meilleures universités d'Afrique, il faut redresser notre système. Et pour cela, on sera peut-être amené à prendre certaines mesures qui seront dans un premier temps incomprises.
Et impopulaires.
Impopulaires. Mais après, les gens comprendront. Par exemple, on ne pouvait pas continuer avec ce qui s'est passé dans les Hommes. Monsieur Alain Rung, je vous propose, si vous avez du temps, faites une petite balade. Il n'y a plus personne là-bas, la police est là, l'armée est là. Allez voir dans quelles conditions les gens vivaient. C'est inacceptable, des conditions infrahumaines. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, justement, c'est améliorer les conditions de vie des étudiants et des enseignants, assainir l'environnement. Nous sommes incompris et puis, comme vous le savez, je suis un politicien. Il y a de la récupération politique, il y a des gens qui manipulent. Et heureusement aussi, là aussi, j'ai vu que l'université a une fonction principale aussi, c'est développer l'esprit critique. Et j'ai vu que beaucoup d'étudiants ne sont pas tombés dans le piège de la manipulation. Vous savez qu'il y a des gens qui ont pris ma photo sur les réseaux sociaux, ils ont fait des déclarations, m'attribuant certaines déclarations. Voilà, il a dit ceci, il a défié les chefs de l'État, voici ceci, cela. Et ils ont publié, ça a fait plouf. Pourquoi? Parce que les étudiants congolais ont quand même développé l'esprit critique. Savoir, non, ça, le ministre, on le connaît, il ne peut pas parler comme ça, ce n'est pas son vocabulaire, dans quel contexte il a dit ça, et tout. Ça m'a fait plaisir. Donc, en résumé, ce que j'ai dit aux étudiants congolais, ensemble, nous pouvons redresser notre système de l'enseignement supérieur. Et c'est vous qui serez les premiers bénéficiaires. Étudier dans les meilleures conditions, suivre un meilleur programme de cours, et puis justement, lorsqu'on améliore la qualité de l'enseignement supérieur, c'est ça qui va amener le développement. Le Japon a quoi? Quelle est la richesse du Japon aujourd'hui? Les Japonais n'ont pas de mines de cuivre, ils n'ont pas de mines de diamants. Les Japonais ont des cadres hautement formés.
Merci, Monsieur le Ministre Thomas Luaka.
C'est moi qui vous remercie. J'en profite aussi pour présenter mes vœux de bonheur et de prospérité à tous les étudiants de la République démocratique du Congo, du privé, du public et à tous les peuples congolais.
Merci, Monsieur le Ministre.
C'est moi qui vous remercie.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision Kéline Kouté, coordination Michel Kifindangoy, présentation Alain Roum-Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.